La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Oui, je vous emmène à Dakar avec la rédaction de la matinale et ça tombe bien parce que je n'y ai pas mis les pieds depuis août 2008. Je me retrouve à être un boomer en disant cette phrase. Pourquoi ? Eh bien, avant, l'avion que je prenais atterrissait à l'aéroport Sédar Senghor. Désormais, les avions vont à Blaise Diagne, un aéroport éloigné de la capitale. Et il y a même un TER qui relie le centre-ville de Dakar à cet aéroport. 2008, qu'est-ce que ça remonte ? Ah, le Serhao, le Mbourou Pinton, les Garté Tiaf, les Mad, le Cocon d'Or, la lutte sénégalaise, le Mbalar, ou encore les soirées de chants religieux, Khadr, Layen, Mourid ou Tijane. Est-ce que je vous ai perdu dans cette énumération au nom imprononçable ? Peut-être, sûrement même. Mais ne vous inquiétez pas, le Sénégal rime aussi avec le Bissap, le Tchaboudjien, les Pastels ou le Dégué comme certains l'appellent. Perso, moi je l'appelle le Tchakri. Ces noms-là, je pense, sont déjà plus familiers. Dakar, dans mes souvenirs, c'est aussi le vent chaud quand on sort de l'avion, les nuits à 20 degrés comme à Nice, mais aussi l'appel du muezzin à différentes heures de la journée. À Dakar, les grains de sable chaud qui nous caressent le visage, les vagues se font remarquer ou encore le ciel rose à l'heure bleue, à moins que ça soit à l'heure dorée. Dakar, c'est aussi Anse Bernard, les îles de Ngor et Gorée au large de la ville, la circulation routière très dense, les cars rapides comme on a pu les voir dans certaines émissions. Ce sont les marchés aux poissons, les différents marchés de la ville, et puis cette couleur orangée de l'air et du ciel qu'on perçoit systématiquement au loin. Le Sénégal, pour moi, c'est le temps du souvenir, de la pause estivale et de fin d'année, de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, de l'ailleurs et de la proximité. Hasard du calendrier, je vous accompagne jusqu'à 20h au micro pour la première matinale en tant qu'animateur en abordant le journalisme au Sénégal. Je vous laisse ainsi imaginer l'émotion qui me submerge à parler ce soir de ce pays. Et au programme de la matinale plutôt chargée de cette matinale de 19h de ce mercredi 12 juin, le rapport de Reporters sans frontières, appelé « Le journalisme sénégalais à la croisée des chemins ». On revient sur ce sujet dans un instant avec Mathie Garas, bénévole de la rédaction, et notre invitée Anne Bocan, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. En deuxième partie d'émission, Quentin Lelaquet, dans le premier zoom de la soirée, effectivement il y en a deux, recevra le collectif Brûle. Ils aborderont ensemble leur pièce Girls and Boys, pièce sélectionnée pour le festival d'Avignon. Un peu plus tard, Hugo Traversier, dans l'autre zoom de la soirée, fêtera la musique en avancée, abordera la fête qui se tiendra à la maison de l'UNESCO. Il la célèbre en compagnie du DJ Pierre Ravant et des organisatrices de l'expo Maître Yoga, Claire Bigan et Laetitia Hobby. Ce n'est pas tout, puisqu'après 19h20, l'émission se poursuivra avec une chronique de Sylvie Argibet. Et en fin d'émission, Hugo Traversier, le même, conclura cette émission, nous parlera UFC. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 FM et en DAB+. Merci d'écouter la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et pour démarrer l'émission, à mes côtés, on accueille Mathie Guérasse de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut à toi.
Eh bien, en 3 ans, le Sénégal est passé de la 49e à la 94e place du classement mondial de la liberté de la presse. C'est ce qu'indique le nouveau rapport inquiétant de l'ONG Reporters sans frontières, intitulé « Le journalisme sénégalais à la croisée des chemins ». Nous sommes là pour en parler ce soir avec Anne Brocandé. Bonjour Anne Brocandé. Anne Brocandé, vous êtes avec nous ?
Oui, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, parfaitement. Vous êtes directrice éditoriale de Reporters sans frontières et vous avez coordonné la rédaction de ce rapport. Pourquoi ce titre aussi énigmatique ? Que voulez-vous dire par la croisée des chemins du journalisme sénégalais ?
Alors, à la croisée des chemins, puisque en effet, le Sénégal aujourd'hui se trouve dans une période charnière. En effet, de nouvelles autorités ont été élues il y a quelques semaines. De fait, nous avons révélé dans ce rapport qu'on espère en tout cas qu'on sort de 3 ans d'un nombre assez inquiétant de violations contre la liberté de la presse, d'attaques contre les journalistes. Et donc, pour nous, là, le fait qu'il y ait de nouvelles autorités qui arrivent, c'est un moment qui est assez stratégique, puisque les autorités ont un rôle à jouer aujourd'hui pour que les exactions, en tout cas des dernières années, ne se reproduisent pas. Et donc pour nous, c'était un peu ce qu'on voulait signifier. En tout cas, c'est le moment d'engager des réformes sur plusieurs points concernant la liberté de la presse, car aujourd'hui, il manque de garde-fous pour nous assurer que ça ne va pas se reproduire.
Votre rapport débute avec les événements du 3 mars 2021. On peut remarquer que cette explosion de violence et arrestation de journalistes... Est-ce que vous nous entendez bien ?
Alors, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, là, c'est bon aussi. Alors, donc, on peut remarquer que cette explosion de violence et arrestation de journalistes était liée à l'agenda électoral du Sénégal, notamment aux différentes manifestations de soutien aux candidats du parti d'opposition PASTEF. Donc, je vais décrire l'acronyme Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ousmane Sonko, qui a été arrêté et poursuivi en justice, peut-on espérer un apaisement des entraves envers les journalistes maintenant que Bassirou Diomaye Faye, donc remplaçant de Ousmane Sonko du PASTEF, a été élu président du Sénégal?
Alors, ce que l'on peut dire à ce jour, puisqu'ils ne sont pas, au pouvoir depuis très longtemps, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a eu des engagements qui ont été pris dans le livre programme de Bassirou Diomaye Faye, donc quand il était candidat, des engagements qui ont été pris notamment sur la protection des journalistes, des engagements qui ont été pris sur la suppression des peines privatives de liberté pour les journalistes, des engagements aussi sur le pluralisme. Et donc aujourd'hui, notre rôle aussi en tant qu'ONG, c'est d'être aussi vigilant et de poser aussi d'aller plus loin et de proposer des recommandations sur ces différents points, sur comment justement améliorer la protection des journalistes dans le pays, comment mieux assurer, garantir le pluralisme, comment assurer véritablement que ces promesses soient prises en compte, puisque ça demande en effet des actes très concrets. Donc aujourd'hui, on a déposé ce rapport que nous avons fait, nous l'avons déposé au ministre, on a discuté avec lui, au ministre de la Communication, on a discuté avec lui sur ces différents enjeux, il s'est montré très à l'écoute et donc on attend maintenant des actes pour que ces promesses, en effet, deviennent des réformes, des lois quand c'est nécessaire. Et puis, certains aussi que des abus, par exemple, ne se reproduisent pas. On pense, par exemple...
Alors, vous parlez d'abus, mais depuis mars 2021, la quasi-totalité des violences envers les journalistes était causée par les forces de l'ordre. Peut-on parler d'une stratégie totalitaire de répression des médias en vue des élections par le président sortant, Macky Sall ?
Ce qu'on peut en tout cas, nous, ce qu'on a constaté en monitorant, c'est qu'en effet, il y avait plus de 30 agressions en tout cas de journalistes avaient été commises par les forces de l'ordre contre des journalistes qui étaient identifiés comme journalistes, qui avaient reçu des tirs ciblés de grenades lacrymogènes notamment, qui avaient parfois été interpellés quelques heures ou quelques minutes dans des camions lors des manifestations d'un camion des forces de l'ordre et qui avaient été agressés. Donc nous, ce qu'on identifie en tout cas, c'est qu'il y a un besoin d'avoir un schéma de protection des journalistes lors des manifestations, ce qui n'existe pas aujourd'hui au Sénégal. Et donc nous, c'est par exemple des mesures très concrètes comme telles qui peuvent garantir la protection des journalistes ou en tout cas sensibiliser aussi les forces de l'ordre qu'elles soient tenues de protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions qui sont en train de couvrir, faire leur travail sur le terrain et que ça c'est un droit, c'est le droit d'informer et d'être informé et qu'il est nécessaire de le respecter.
En parlant de presse, donc le ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse très récemment dans laquelle il a mis en garde les patrons de presse qui ne paieraient pas leurs impôts. Quand le Premier ministre tient des propos comme ceci, est-il avec ou contre le journalisme de manière générale ?
Alors en effet, c'est on a été informé de cette déclaration qui a été faite, donc si je ne me trompe pas, qui a été faite en tant que chef du parti du PASTEF, a priori dans une réunion qui était à ce titre-là. Aujourd'hui, il a soulevé en tout cas une problématique qui est la question finalement de la soutenabilité aussi économique des médias, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et c'est comme tel qu'ont répondu aussi les médias directement, c'est quelles sont les propositions aussi pour que les médias soient viables économiquement, que là, il y a des enjeux à ce titre-là. Et donc, nous, on a aussi, on est dans une posture aussi de proposer des choses à cet endroit-là pour, en effet, qu'il y ait plus de transparence dans les financements actuellement des médias par les soutiens publics, qu'il y ait aussi une meilleure prise en compte, en tout cas, de comment l'écosystème médiatique fonctionne, de ses besoins et notamment de ses besoins économiques. Et aujourd'hui, les autorités... On les invite en tout cas à être en posture de dialogue sur ces questions-là et pas dans une posture de rapport de force ni de punition, mais plus être dans une compréhension de l'écosystème médiatique, et de pouvoir apporter des réponses pour aussi, encore une fois, le droit à l'information, puisque c'est de ça qu'il s'agit in fine, c'est qu'on puisse assurer. Il y a quand même un bouillonnement médiatique au Sénégal. Il est important qu'il puisse continuer d'être vivace.
En parlant de répression et de punition, pouvez-vous nous expliquer comment la loi sénégalaise permet de si facilement arrêter des journalistes de façon arbitraire pour délit de fausse nouvelle ou encore pour offense au chef de l'État ?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose, en effet, qu'on remarque au Sénégal, mais pas seulement. C'est que certaines lois, en effet, à un moment donné, peuvent être utilisées pour entraver le travail des journalistes. Alors au Sénégal, il y a notamment la question de la diffusion des fausses nouvelles, qui est très large, qui est très libre d'interprétation, donc qui peut à un moment donné être usée contre les journalistes. C'est pour ça que nous, notre première recommandation là-dessus, c'est de justement pour pas que le cadre législatif soit utilisé contre l'information général et d'intérêt général, c'est justement de supprimer, comme ça existe dans plein d'autres pays, la peine privée, les peines privatives de liberté pour les journalistes, pour que quand il y a des enjeux qui sont vraiment d'ordre plutôt éthique et déontologique, ce soit pris en charge par des organes de régulation sur l'éthique et la déontologie, et pas par la justice à cet endroit-là, puisque on voit qu'en effet, ça peut être utilisé contre l'intérêt public et général. Et ça a été le cas là sur plusieurs arrestations dont on a fait état, où même un journaliste a été arrêté et interpellé parce que pour usurpation d'identité de journaliste, parce qu'il avait juste pas de carte de presse, alors que c'est un journaliste très reconnu dans la profession et depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'abus-là il peut y avoir des garde-fous et la suppression des peines privatives de liberté pour les journalistes en est un.
Donc pour pallier à tous ces abus-là, vous avez fait des recommandations, vous avez rencontré le ministre, c'est bien ça, le ministre de la communication et de la télécommunication et du numérique, Aliou Nsal. Concrètement, que propose Reporters sans frontières? Vous en avez plus de 30 pour protéger au Sénégal les journalistes contre les violences, le harcèlement et les pressions politiques, comme on vient d'en parler. Pensez-vous qu'une partie de ces recommandations pourra être et sera appliquée par le ministère, et combien de temps est-ce que ça peut prendre, est-ce que ça va prendre?
Alors, je ne lis pas l'avenir, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'en tout cas, les 30 recommandations qu'on a posées, en effet, il y en a de différents ordres entre le court, moyen et long terme. Il y a un certain nombre qui aussi nécessitent de la concertation, qui nécessitent aussi d'entrer dans un schéma aussi de dialogue et de discussion, et nécessairement, ça prend du temps. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être appliquées, en tout cas, plus ou moins rapidement. Et surtout, il y en a certaines qui vraiment se basent sur des promesses qui ont été faites pendant la campagne. Donc, pour nous, celles-là font partie des réformes prioritaires. La suppression des peines privatives, ça fait très longtemps qu'il en est question au Sénégal, ça fait partie des priorités, donc ce serait évidemment bienvenu qu'elle fasse partie des priorités, mais aussi par exemple la question des lanceurs d'alerte que Bassirou Diomaye Faye a mis dans son livre programme, qui est une question vraiment centrale dans le programme des nouvelles autorités. Et là, pour nous, par exemple, il s'agit de déjà inscrire que les lanceurs d'alerte sont reconnus comme des sources journalistique bénéficiaire du régime de protection de la confidentialité, donc de pas décorréler le lanceur d'alerte de la question du journalisme. Donc ça, par exemple, ça pourrait être en effet des choses qui pourraient être rapidement ou en tout cas assez rapidement mises en œuvre. Il y a des questions, donc il y a des choses qui sont un peu plus long terme, type une autorégulation de la publicité pour mieux favoriser en tout cas tous les médias dans l'octroi de ressources financières issues de la publicité. Ça, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps, par exemple. Mais voilà, il y a différentes échelles de faisabilité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes sont faisables. On n'a pas mis des choses idéalistes. En tout cas, on n'est pas dans un certain idéalisme. On a mis des choses qui sont très faisables dans le contexte du Sénégal, notamment aussi sur renforcer la protection contre les coupures arbitraires des réseaux sociaux, d'Internet ou de médias, puisqu'on l'a vu sous les précédentes autorités. Le ministre de la Commission s'était octroyé le droit de pouvoir décider du jour au lendemain de couper l'accès aux réseaux sociaux, couper l'accès à Internet, couper,
oui,
retirer des licences.
Mars, on l'a vu en février-mars avec ce qui s'est passé avec l'ancien président.
Justement, en parlant de liberté de la presse, nous savons que c'est une liberté qui est en danger partout dans le monde. Dans un contexte social et politique tendu, nous remarquons en France une augmentation de violences policières envers les journalistes. Un scénario semblable au Sénégal est-il envisageable ?
Alors, les comparaisons sont toujours difficiles à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, on a clairement vu que les violences policières avaient augmenté contre les journalistes, que les interpellations et les arrestations, il n'y en avait pas eu depuis le début, depuis près de 20 ans, et il y en a eu sous les 3 dernières années. Donc clairement, on a vu qu'il y avait une recrudescence, et Et il y a encore une fois, il y a des réponses à mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas aujourd'hui. De fait, il n'y a pas de garde-fou pour ça. Donc, on ne sait pas s'il y avait de nouvelles, parce que là, ça s'est fait en effet beaucoup dans un contexte de contestation politique, puisque, en effet, je ne sais plus si on l'a précisé, mais quand on parle de la dégradation de la place du Sénégal dans le classement mondial de la liberté de la presse, c'est essentiellement sur les indicateurs politiques et sécuritaires. Donc, le fait que la sécurité des journalistes est de moins en moins bien garantie et que le politique ne joue plus suffisamment son rôle de protection du droit à l'information. Donc en effet, là-dessus, de fait, on voit une dégradation et on espère que ça ne va pas continuer, mais il faut des signaux pour ça.
Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais revenir avec vous très rapidement sur la liberté des médias et pour pouvoir les financer. Est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que se répartissent les financements ? Par exemple, est-ce que le ministère de la communication finance aussi une partie, participe un peu à la pluralité des médias ?
Alors aujourd'hui, c'est justement ce pourquoi on appelle à davantage de transparence, c'est qu'aujourd'hui, de fait, oui, il y a un budget du ministère qui est alloué au soutien médias, mais qui est assez opaque, en tout cas qui n'est pas transparent, dont on n'a pas connaissance des montants exacts et sur quels critères. Et donc aujourd'hui, nous, notre proposition, et comme qui émane aussi des besoins du secteur, c'est qu'il y ait plus de transparence sur les critères d'attribution du soutien public aux médias et que du coup la répartition puisse être peut-être en tout cas meilleure, en tout cas revue, en tout cas basée sur des critères transparents, et ce n'est pas aujourd'hui le cas. Mais de fait, oui, il y a un soutien public aux médias, mais il est insuffisant et insuffisamment transparent aujourd'hui.
Quand vous avez rencontré le ministre, est-ce qu'il était ouvert sur ce sujet-là, si vous avez abordé ce sujet-là, par exemple ?
Mais ce qui est sûr, c'est que la question de l'assainissement, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche des nouvelles autorités, la question d'assainir de manière générale les choses. Donc je pense que dans cette perspective-là, les enjeux de transparence sont des choses qui résonnent. Et donc c'est là où pour nous, sur les enjeux de l'information et des médias, ça fait partie de nos recommandations de commencer par là, sur la partie soutien public, d'être aussi plus transparent à cet endroit-là, et puis de repenser aussi, en tout cas de déjà définir davantage les critères et de les rendre publics aussi, et de les rendre publics également.
Merci d'être avec nous, en tout cas merci d'avoir été avec nous au micro de la matinale. C'est un rapport qui est assez dense, un rapport qui fait un peu plus de 20 pages. C'est vrai qu'en préparant cette émission-là, ça a été, il a fallu faire un choix sur les questions, mais en tout cas c'était très intéressant, et j'invite vraiment les auditeurs à aller voir le rapport sur le journalisme sénégalais, donc à la croisée des chemins, sur le site de Reporters sans frontières, qui permet de balayer, vraiment de faire un état des lieux sur ce qui se passe au Sénégal, et puis surtout ce basculement qu'il y a eu en 3 ans. Merci à vous en tout cas.
Merci.
Et tout de suite, une pause musicale s'offre à vous, à vos oreilles, sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. C'est bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurais mieux comment te dire adieu. Te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication voudrais mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu.
Ce soir sur Radio Campus Paris, on rend hommage à Françoise Hardy. On a écouté C'était comment te dire dans la matinale de 19h.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Salut Sylvie Argibet.
Salut.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Bah ça va, merci. Donc on te retrouve pour nous parler de l'ayahuasca, tout un programme, de la peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne et du tourisme chamanique. Mais au fait, Sylvie, c'est quoi l'ayahuasca ?
Alors l'ayahuasca signifie liane des morts en quechua, qui est une plante hallucinogène, utilisée par les peuples d'Amazonie. Elle occupe une place centrale pour les populations autochtones, notamment chez les Shipibo Conibo. L'ingestion de ce breuvage psychotrope, généralement dans le cadre d'une cérémonie chamanique, produit des visions qui inspirent des motifs de l'artisanat traditionnel et des œuvres d'artistes contemporains péruviens ainsi que d'artistes occidentaux. En effet, les renés sont les motifs géométriques, symétriques et labyrinthiques visualisés lors de la prise d'ayahuasca. Les artistes se disent ensuite inspirés par ce voyage spirituel et hallucinatoire.
Et quand est-ce qu'est né ce mouvement de peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne ?
C'est dans les années 1990 en zone urbaine, parmi les populations métisses, que naît la peinture visionnaire de l'Amazonie péruvienne, sous l'impulsion de Pablo Amaringo, peintre péruvien d'origine indigène, connu pour avoir été le premier à peindre ses visions. Son œuvre de 1987, Cosmología Amazónica, a suscité un engouement international et explique en partie l'essor de ce courant artistique. Le peintre étatsunien Robert Venosa et son œuvre de 1994, Ayahuasca Dream, a contribué aussi à l'émergence d'un art visionnaire occidental. En 86, est également créée l'école de peinture amazonienne Usco Ayar par le peintre et anthropologue Luis Eduardo Luna à Pucallpa en Amazonie péruvienne. Les peintures de style amazonien se caractérisent par leurs couleurs foisonnantes. Sur ces tableaux figurent des paysages réalistes, des animaux, des anacondas, des jaguars, mais aussi des feuillages et des symboles de vision d'ayahuasca. La peinture visionnaire d'Amazonie péruvienne jouit d'une reconnaissance internationale nourrie par l'intérêt occidental pour l'ayahuasca et les pratiques chamaniques de la région. Le musée du Quai Branly a par ailleurs récemment consacré une exposition portant sur les relations entre images hallucinatoires et productions iconographiques à partir du cas de l'ayahuasca. Pardon.
Et quand est-ce qu'est né ce tourisme chamanique ?
Alors, traditionnellement, seuls les chamans d'Amazonie prenaient l'ayahuasca pour soigner les malades. C'est dans les années 90 que la prise d'ayahuasca commence à s'internationaliser, avec la naissance du tourisme chamanique. Dès lors, elle est de plus en plus associée à la dimension thérapeutique. Très souvent, les voyageurs occidentaux vont vouloir prendre l'ayahuasca pour guérir des maux qu'ils n'ont pas réussi à soigner, comme le burn-out, la dépression, les addictions et le deuil, comme on le connaît en France. Pour les chamans guérisseurs, l'ayahuasca a une fonction de nettoyage. Il n'est pas rare de voir des vidéos de cérémonies chamaniques montrant des participants avec un seau, car la prise d'ayahuasca s'accompagne de nausées et de vomissements. Elle représente ainsi une sorte de thérapie accélérée qui permet de faire émerger les souvenirs et les émotions refoulées. Il y a même des centres chamaniques qui ont été créés pour que ces touristes chamaniques, comme on les appelle, ou après la prise d'ayahuasca, ils participent à des groupes de parole pour échanger ensemble.
Et ces touristes chamaniques, comme on les appelle, sont uniquement en quête de solutions thérapeutiques ?
Alors la dimension spirituelle et politique est également recherchée lors de la prise d'ayahuasca. De nombreux touristes occidentaux se rendent en Amazonie péruvienne avec l'intention de découvrir des peuples originaires animistes qui entretiennent une relation d'interdépendance et de complémentarité avec la nature et les animaux. L'intérêt est de plus en plus fort de la population occidentale pour la médecine alternative explique aussi cette volonté de tirer des connaissances des peuples autochtones d'Amérique.
Et ben on voyage ce soir et en plus on reste le long de l'équateur. On n'était pas très loin à Dakar, là maintenant on est en Amazonie. Merci Sylvie.
Merci.
Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 FM et sur le DAB+.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Le premier Zoom de ce soir, c'est avec toi, Quentin Lelaquet. Salut.
Bonsoir, Radio Campus, bonsoir Paris.
Et avec toi, on parle de la pièce Girls and Boys, sélectionnée pour le Festival d'Avignon avec tes invités.
Absolument, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Léa Gumieux et Thelma Chollet, qui sont, donc on dit metteuses en scène ou metteurs en scène, mais j'aime bien dire metteuses en scène, et comédiennes au sein du collectif Brûle, qui propose une adaptation de la pièce de théâtre écrite par Denise Kelly, qui s'appelle Girls and Boys, et qui est sélectionnée au Festival Off d'Avignon. Bonsoir.
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 Alors, on va replacer un petit peu l'histoire. Donc, tout commence dans un aéroport de la file d'attente EasyJet où une femme rencontre un homme. De cette histoire d'amour rencontre, ça se transforme en histoire d'amour qui est à la fois passionnée, idyllique, mais va rapidement tourner à l'horreur. C'est une pièce qui est à la fois drôle et dramatique et extrêmement compliquée. Vous allez nous raconter tout cela tout de suite. Déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de votre rencontre? Comment votre collectif est né?
Oui, bien sûr. Nous, on s'est rencontrés à l'école de théâtre. On s'est formé à l'EDT 91, qui est une école dans le sud de Paris. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés et que la pièce est née à la base. Et du coup, voilà.
D'accord. Et pour les novices en théâtre, ceux qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est qu'un collectif, à quoi ça sert?
Un collectif, alors pour moi, c'est donner un espace de création. C'est des artistes qui se regroupent ensemble, et en théâtre comme ailleurs, pour se donner l'espace de faire naître leurs idées et mettre en commun des moyens, des envies artistiques. Et voilà.
Oui, je suis assez d'accord. En fait, à la base, le collectif Brûle, il est né autour de la pièce Girls and Boys, et donc vraiment avec les membres qui faisaient partie de cette pièce-là. Donc on était quatre, et en fait, au fur et à mesure, on a commencé un petit peu à s'agrandir en collectif. Donc il y a deux autres personnes qui nous ont rejointes, et on a commencé en fait à créer tout ça, de plus en plus de pièces, de plus en plus de spectacles. Et donc du coup maintenant c'est plus du tout juste lié à Girls and Boys, mais en fait c'est quelque chose qui s'agrandit, et à la place le collectif ça servait vraiment cet espace de création là autour de Girls and Boys, et maintenant c'est d'autres pièces, voilà, aussi.
Du coup c'est la transition parfaite, ma prochaine question c'est la suivante, pourquoi avoir choisi cette pièce Girls and Boys de Denise Kelly, d'où est venue l'idée?
En fait, à la base c'est un livre qu'on m'a offert, que j'ai lu vraiment en un trajet, que j'ai trouvé incroyable. Parce que pour moi, ça traitait de sujets qui me parlaient, moi, personnellement, en tout cas. C'est une pièce qui vient questionner la violence, de dire pourquoi, en fait, l'être humain est le seul, entre guillemets, animal qui est violent pour d'autres raisons que de se défendre ou manger. Et je pense que l'actualité nous en donne pas mal d'exemples. Et donc ça, c'était moi le thème qui m'a parlé, plus ce personnage de femme, parce qu'en fait, la pièce était un monologue. Et ça présente un personnage de femme hyper irrévérencieux, qui rentre pas mal dans le tas, qui est pas très clean dans sa parole, et qui du coup moi me plaisait pour ce côté rugueux, en fait. Voilà.
Très bien. La pièce, elle existe sous différentes interprétations et mises en scène. Elle a été interprétée plus récemment avec une fabuleuse actrice dont j'ai oublié le prénom, je suis vraiment désolée.
Bénédicte Cerritti.
Voilà, exactement, et qui a reçu un Molière pour son interprétation.
Ah, c'est Constance Zollé alors,
voilà,
c'est la première.
Voilà, Constance Zollé, ouais. Exactement, qui a reçu un Molière pour son interprétation. Toi Léa, en tant que metteuse en scène, comment tu as choisi de retranscrire cette histoire en fait?
Eh bien, j'ai décidé de mettre trois comédiennes au plateau pour porter ce monologue. Donc en fait, on a une répartition de la parole pendant une heure dix, entre ces trois comédiennes qui portent un même personnage. Et on a aussi ce qu'on appelle un trait frontal, c'est-à-dire que le public est tout autour d'elles. Et donc il y a une adresse très directe, c'est comme si c'était un échange. Presque souvent, ce qu'on écrit, c'est que c'est une réunion anonyme, et que chacun pourrait parler, mais en fait, c'est elles qui vont parler pour porter ensemble cette parole de femme et ce questionnement sur la société. Voilà, donc on a un rapport très simple, avec un décor assez, assez simple aussi. C'est vraiment un grand tableau où elles notent leurs idées. Voilà.
Et justement, c'est ce qui est intéressant avec cette pièce, parce que dans les différentes interprétations que j'ai pu voir, il y avait ce qui dénotait justement, c'est cette interaction avec le public, cet échange qui est créé. C'est-à-dire que c'est un monologue, mais le public est le partenaire de ce monologue. C'est presque qu'il répond au monologue. Et donc ça, c'est super intéressant. Comment vous avez travaillé cette pièce? Parce qu'on passe du rire aux larmes, on passe du stand-up au drame. C'est extrêmement compliqué. Comment vous avez préparé ça?
Tu veux y aller?
Bah oui, je dirais déjà que en fait le travail du cœur, il a apporté une toute autre dimension en fait à cette pièce qui à la base est vraiment un monologue. Et comme tu le disais, en fait, on passe du rire aux larmes, c'est dramatique et en même temps il y a beaucoup d'humour. Et du coup, le cœur, en fait, il sert tout ça. C'est-à-dire que les moments où en fait le personnage va faire des blagues, va un peu voilà, à s'amuser de son côté un peu irrévérencieux, etc. En fait, le cœur, il va être là pour créer en fait une espèce de d'humour qui grandit parce qu'on va rebondir les unes sur les autres, sur les blagues de l'autre, etc. Et à la fois le côté dramatique, en fait, le cœur, il sert aussi énormément le côté dramatique parce que ça apporte une dimension d'écoute qui est fondamentale, d'entraide et surtout de force, en fait. Et du coup, on a d'abord commencé vraiment par travailler vraiment le cœur. Donc en fait, c'est quoi être trois comédiennes au plateau? En fait, on est vraiment très, très différentes les unes des autres. Et donc, on a commencé aussi par cultiver cette différence-là et se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça donnerait ensemble? Et du coup, être vraiment à l'écoute de ce cœur-là qui rebondit. Et donc, ouais, on a beaucoup travaillé ça au début et toujours, en fait.
Oui, et l'idée de sororité un peu dans ce cœur-là, d'entraide, de soutien, comme dit Thelma.
Et du coup, toi, Thelma, en tant qu'actrice, qu'est-ce qui est beaucoup plus facile de jouer pour toi? Est-ce que c'est la partie plutôt drôle ou la partie plutôt dramatique?
Ni l'un ni l'autre, en vrai. J'ai l'impression que ce qui est important de tenir, c'est la linéarité. C'est de savoir qu'en fait, l'histoire, elle avance toujours. Et que du coup, en fait... c'est trouver en fait sa place dans cet entre-deux-là, entre l'histoire avance et en fait on a vraiment quelque chose à raconter. Et en même temps, c'est tellement important de prendre son temps et de s'adresser directement au public. Et donc, je dirais que ce qui demande le plus de méticulosité, c'est de toujours travailler l'écoute à la fois à l'histoire qui avance, au cœur et aux réactions du public. Et c'est les réactions du public qui font qu'en fait, c'est jamais le même spectacle en fait aussi.
Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de respecter un peu l'histoire qui avance. C'est une histoire qui est très difficile puisque Denis Kelly, dans son style d'écriture, il a une manière très brute de raconter les choses. Ça demande pas mal d'intensité dans le jeu. Comment, toi, en tant qu'actrice, t'arrives aussi à prendre du recul par rapport au sujet qui est quand même compliqué? Souvent, les acteurs nous disent qu'ils sortent de leur pièce, ils sont encore possédés par le personnage. Comment toi, t'arrives à prendre ce recul-là?
On est toutes les deux actrices dans la pièce. Du coup, si tu veux aussi répondre.
Du coup, moi, là, parce que là, on part à Avignon avec le spectacle, et pour ces dates-là, je joue aussi. Du coup, mais je sais qu'en tant que, du coup, même en tant que metteur en scène, un truc que j'ai beaucoup dit aux trois comédiennes, c'est soyez au plus simple. N'allez pas chercher justement l'intensité, laissez les mots venir et on verra ce que ça donne et surtout ne plaquez aucune émotion. Et on va voir où ça nous emmène, mais surtout ne forcez pas en fait justement le côté très dramatique de la fin. Si on le fait, de manière ultra intense et tout, ça va être horrible pour tout le monde. Alors que si on le fait au plus simple, ça va et toucher les comédiennes et toucher le public parce que les mots sont déjà tellement forts qu'il n'y a besoin de rien rajouter en plus.
Et du coup, ta question, c'était vraiment en fait, comment on fait pour sortir de cette histoire dramatique une fois que la pièce est arrêtée, c'est ça? En fait, c'est intéressant parce que je me souviens que les premières fois qu'on a joué la pièce, en fait, on n'avait pas du tout en tête le drame. En fait, nous, vraiment, on était là, sur scène. On s'attachait vraiment à l'importance d'être ensemble, d'être en cœur, d'être à l'écoute, de rire. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de soleil. Et en fait, on sortait de là. Et les gens nous disaient « Ah ouais, c'est dur quand même et tout. » Et on se disait « Ah bon ?» Ah bon ?» Et en fait, du coup, il y a un travail qui s'est acheminé où en fait, du coup, on a de plus en plus pris conscience en fait, de ce thriller-là, du fait que c'est vraiment écrit comme un thriller parce que Denis Kelly est aussi un scénariste et donc il y a des scènes très coupantes, etc.
Et donc on a accordé de plus en plus d'importance à ce côté thriller, à ce côté dramatique, pour après justement se redire, en fait, il y a aussi autre chose, il y a aussi l'après, il y a aussi le soleil. Y a
oui.
Aussi,
oui, parce que c'est aussi une femme qui se relève, en fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'elle se relève de ce qu'elle a vécu et elle vient raconter tout ça. Et du coup, si on le raconte à 6 pieds sous terre, c'est compliqué, quoi. Alors que si elle arrive avec ce soleil, comme tu dis, c'est beaucoup plus accessible, je crois.
Et est-ce que jouer cette pièce a un peu changé votre perspective sur le sujet et la gravité du sujet ? Parce qu'on est quand même sur un rôle de femme qui interroge aussi sur la condition en tant que femme, mais c'est écrit par un homme. Quelle vision vous avez là-dessus ?
Sur le fait que ça soit écrit par un homme ou sur...
Un peu les deux, sur le fait que ce soit écrit par un homme et sur finalement la violence dans les relations.
Ouais.
Est-ce que ça a changé votre vision ?
Sur le fait que... sur la violence... non, en fait, ça n'a pas changé la vision parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà. C'est juste pointer du doigt encore, souligner encore ce fait-là. Parce que ce que dit Denis Kelly un peu, c'est que potentiellement, la violence dans cette société vient des hommes, en fait, de la manière dont on les éduque, mais depuis tout le temps. Donc ça n'a pas changé, pour moi ça m'a juste poussé encore plus dans cette idée-là. Et sur le fait que ce soit écrit par un homme, moi quand je l'ai lu, je pensais que Denis, c'était Denise, et en fait c'est à l'anglaise Denis, et c'est un homme, mais du coup vraiment pour moi ça ne change pas grand-chose, juste c'est comment nous, en tant qu'en fait on est 4 femmes au plateau, c'est comment on s'empare de ça, et comment on fait, comment on le traduit en fait, et du coup avec ce trio, avec cette... voilà.
Merci à vous deux d'être venus dans la matinale. Merci à toi, Quentin. Restez sur Radio Campus Paris 93.9 sur la FM, en DAB+, sinon. Et vous écoutez la matinale de 19h et on revient juste après ça. Last night, couldn't even get an answer. I tried to call. I won't let me die. And I'm sitting here with this blank expression. And the way I feel, I wanna curl up like a child. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am.
this blank expression.
Last Night de Kishako et Didi, un classique. Vous êtes sur Radio Campus Paris et il est 19h41.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
L'autre Zoom de ce soir, c'est avec toi, Hugo Traversier. Salut à toi.
Salut.
Et avec toi, on fête déjà la musique et on va à la maison de l'UNESCO avec tes invités.
En effet, pour la fête de la musique, la maison de l'UNESCO accueille le DJ Pierre Ravan et le percussionniste et flûtiste Habib Mefta. Elle héberge également l'exposition Maître Yoga du 15 au 21 juin. Donc nous recevons aujourd'hui Pierre Ravan ainsi que Laetitia Aubi. Vous êtes toutes les deux à la maison de l'UNESCO et vous organisez l'exposition Maître Yoga avec Claire Brigand qui n'est pas là aujourd'hui. Vous allez bien ?
Merci.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la maison de l'UNESCO ?
La maison de l'UNESCO, c'est à Paris le siège de l'UNESCO, donc qui a été fondée par l'ONU pour être le gardien de la culture, de l'éducation et des arts au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on porte un message fort à l'humanité tout entière. Les journées qui sont consacrées à des sujets particuliers, des thématiques particulières, sont portées normalement par des délégations de tous les pays du monde. Donc okay. Représentés à l'UNESCO, c'est-à-dire environ 160 pays.
D'accord, donc vous organisez l'exposition Maître Yoga. Qui veut répondre à ces trois questions ? Qu'est-ce que le yoga ? À quoi sert-il ? Et comment peut-il m'aider ? Alors, qu'est-ce que le yoga ?
Le yoga, c'est avant tout une recherche intérieure.
Oui.
Le yoga, c'est une expérimentation. Donc, à travers ces questions, vous allez pouvoir réfléchir, déambuler dans cette exposition et trouver peut-être des réponses. Et surtout, expérimenter. Car le yoga, c'est avant tout une question d'expérimentation. Vous allez pouvoir expérimenter différents types de yoga qui sont donnés par des fédérations. Tous les jours, 4 cours différents, par des fédérations différentes. Donc, vous allez pouvoir venir tester. Ensuite, vous allez aussi tester de la méditation, c'est-à-dire c'est un yoga dit Raja Yoga. Donc, vous allez pouvoir expérimenter des techniques qui vont vous apporter de la concentration, gérer votre stress, améliorer votre sommeil, des choses comme ça qui vont vous permettre de faire une reconnexion à soi. Donc ça, c'est aussi important et ça s'adresse également aux ados. Avant leurs examens, on a proposé un atelier, justement, gestion du stress avant examen.
Oh.
C'est juste avant le bac, donc ça tombe bien.
Et ça a marché ?
Ah bah écoutez, c'est samedi, il reste encore quelques places, mais voilà.
Et est-ce que vous avez... Auditeur, auditrice.
Allez-y. Est-ce que vous avez généralement un public adolescent au yoga ou c'est plutôt des gens plus âgés ? Curieux.
Oui, vous êtes curieux.
Mais la curiosité n'est pas qu'un vilain mauvais défaut.
Non, au contraire, c'est une qualité. Au contraire. Oui. Non, vous avez raison, on a peu de jeunes. Le yoga concerne essentiellement des jeunes adultes, plutôt,
oui.
Ceux qui cherchent plutôt de la condition physique, on va dire. Et ensuite, à partir d'un certain âge, tous ceux qui veulent s'entretenir, tout simplement. Et bon, moi j'ai commencé, j'avais 19 ans.
Ok.
Peut-être pas un bon exemple, mais...
Non, voilà. Moi j'en ai fait récemment aussi, et ça a été.
En tout cas, de plus en plus de personnes y viennent parce que c'est respectueux du corps,
oui.
C'est pas des sports qui abîment, au contraire. On peut faire des yogas qui s'adaptent aux morphologies, aux carences, aux différentes situations des personnes, et ça peut se pratiquer aussi chez soi, etc. Donc entre amis... et se partager en famille aussi. Donc, c'est aussi ce qu'on montre avec le yoga pour enfants.
Bien sûr.
Donc, samedi, plein de séances de yoga pour enfants.
Ok, trop bien. Et du coup, on a Pierre Ravan qui est là, qui est DJ. Est-ce qu'il y a un rapport entre la musique et le yoga ?
C'est à qui qu'elle répond ?
Alors, comme vous voulez, est-ce que vous voyez un lien, justement ?
Est-ce que vous faites du yoga, déjà ?
Écoutez, est-ce que vous faites du yoga, Pierre ?
En venant ici, on a écouté un très beau morceau, n'est-ce pas ?
Oui.
C'est quoi la musique ?
Juste avant qu'on a mis,
c'était... Je suis venu. Je vais vous demander une question avant
musique,
de partir.
Qu'est-ce que la musique ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est du rythme.
Qu'est-ce que vous dites ? Mais où vous le sentez ?
Dans le corps, dans le cœur.
Dans tout le corps.
Dans le corps ou dans le cœur ?
Dans le cœur.
Et c'est quoi le cœur ?
Qu'est-ce que le cœur ?
Qu'est-ce que vous sentez dans le cœur quand une musique vous touche ?
Les battements.
Pas seulement ça, c'est l'émotion.
L'émotion.
C'est le feeling. Alors yoga, c'est tout ça. Alors yoga, ce que on n'a pas très bien compris, on pense que c'est les mouvements, c'est les asanas.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas un sport, yoga. Mm-hmm. Yoga, c'est un lifestyle.
Ah.
Et pour moi, comme un musicien, on voulait ramener aux jeunes pour expérimenter ces musiques-là avec la méditation. Parce que vous voyez maintenant, quand vous sortez dans une boîte ou dans un festival, avec les iPhones, il faut les jeter dehors. Il faut se connecter avec le DJ, n'est-ce pas? Et l'unité, c'est ça qu'on veut. À l'époque, quand il commençait, vous êtes jeune, c'était Paradise Garage, parce que je joue la house music. Quand c'était le Paradise Garage, ou c'était Ministry of Sound en Londres, ou dans tous les festivals de Ibiza, Tulum, tu voyais, la grande mode. C'est quoi? Pourquoi c'est la mode? Parce que les gens, ils ne sont pas liés avec leur cœur. Et le plus important, c'est que même pas avec eux-mêmes, imaginez, même pas avec quelqu'un qui danse à côté de lui. Parce qu'on n'a pas cette connexion. On appelle ça la unité. Et la seule façon que nous, on pense que dans un festival que je joue, 100 000 personnes, 75 000 personnes ou pour 40 personnes, c'est les unir, les mettre ensemble et après jouer à la musique. Et ça, ça crée la unité dans le cœur. Et ça, la seule chose que peut faire ça, c'est la méditation.
Et justement, est-ce que vous sentez, vous, cette connexion avec le flûtiste avec lequel vous allez collaborer, Habib Mehta?
Magnifique. Vous voyez, par exemple, Habib, c'est un flûtiste très connu. Il joue le percu, flûtiste, il chante aussi. Et avec lui, c'est comme un voyage, it's a journey. Ça veut dire qu'on va jouer ensemble et on va donner l'expérience aux gens qu'est-ce qu'ils vont sentir à travers la musique électronique. Ce n'est pas la musique, la sitar, hein. C'est la techno, c'est la house. Et c'est des drums, c'est des kicks, c'est l'afro. Ça veut dire que le style de musique n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est ce que vous sentez dans le cœur à la relation quand on va parler de yoga. Ça veut dire que le vrai yoga, c'est l'union avec vous-même. C'est pour ça qu'on veut que les gens comprennent que pour avoir une intoxication, qu'est-ce que j'ai dit ?
Intoxication.
Bravo, on a tout compris. Intoxication, si c'est naturel, c'est permanent. Mais si c'est pas naturel, ça peut, après deux heures, vous avez le downer. On se comprend bien là. Ça veut dire que pour une intoxication naturelle, c'est la meilleure formule. Et ça, c'est quand vous sentez la musique dans le cœur.
Ok, finalement, vous avez un peu le même métier, vous deux, qui est de faire ressentir les émotions, de se reconnecter à soi-même. Est-ce que le yoga permet ça et comment il le permet justement ?
Le yoga permet de faire une connexion plus rapide.
Oui.
Plus vous pratiquez, plus vous allez retrouver une connexion rapide et vous allez dans des situations où vous êtes stressé ou des situations où vous perdez pied. Par exemple, quelqu'un vous surprend ou vous agace ou vous êtes très contrarié. Plutôt que de vous laisser embarquer par quelque chose de très émotionnel, vous allez réussir en quelques secondes à vous recentrer et vous dire « non, ça ». Je ne m'attarde pas là-dessus. Je ne vais pas dans ce sens-là. Je reste focus. Donc, c'est cette gestion aussi des émotions et de votre relation au mental qui est importante. La discipline du mental, ça fait aussi partie de la connexion au cœur. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas embarquer par n'importe quoi ou par n'importe quelle pensée aussi.
D'accord. Mmh. Donc, vous le disiez, samedi, c'est la journée du yoga pour enfants. En quoi consiste justement le yoga pour enfants et à quoi sert-il ? Vous nous avez dit avant examen pour les adolescents. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Qu'est-ce qu'on y cherche ?
Pour les petits, il faut rester ludique. On leur apprend plutôt à comprendre leur corps, à jouer avec le corps, à faire les asanas qui ont des noms d'animaux. Mmh. On fait le chien, on fait le chat, on fait le lapin, on fait le tigre. On fait des asanas qui proposent des postures... imaginer des animaux et qui se connectent à une émotion. Par exemple, le tigre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va griffer quelque chose, il va rugir, etc., etc. Le chat, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'étirer en long, il va se secouer, il va faire des choses, autre chose. Donc, c'est tout ce qui est plutôt imaginaire et on le rattache à des contes, généralement. Là, on s'adresse à des enfants entre 3 et 6 ans, hein. Il ne faut pas être trop exigeant non plus en termes de concentration et de focus trop long.
Très bien. Voilà. Et donc, l'exposition est du 15 au 21 juin. Est-ce qu'il y a des tickets à prendre en ligne ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on réserve ? Et c'est à quelle heure ?
Alors, ce sont les horaires d'ouverture de l'UNESCO, c'est-à-dire de 10h à 17h. Mmh. C'est ouvert toute la journée. Les expositions, vous pouvez venir en visite libre. On vous conseille de vous inscrire sur le site... Yoga for Unity,
Ok.
Si vous faites maître yoga UNESCO, vous tombez sur le site et vous pouvez vous inscrire. Pour venir voir le concert de Pierre, il faut s'inscrire, c'est obligatoire. Non. Et on vous demandera une pièce d'identité à l'entrée, car c'est les checks sécurité de l'UNESCO.
Et c'est à quelle heure le concert ?
Alors, les gens vont arriver à 18h. On commence entre 19h et 21h.
Okay.
C'est 2 heures de live set. Ça veut dire que c'est le DJ set avec live instrument. Et après, on va avoir une méditation. On commence et on termine. Parce oui. que c'est
ah, à la c'est fin, innovant, c'est, les, ça, quand même.
C'est l'expérience. Vous voyez, on parle d'expérience.
Okay.
On n'est pas. Vous voyez, on veut les gens venir et expérimenter.
Ouais.
Et pour aussi ajouter ce que ma collègue a dit, au niveau du yoga, c'est pas seulement les postures. On a aussi quelque chose qu'on appelle une relaxation, qui c'est yoga, que les enfants avant d'aller à l'école, ils font à la relaxation. Ça veut dire qu'ils s'assoient dans leur classe et ils se calment. C'est 5 minutes, vous allez expérimenter pour la soirée, on va faire avec la relaxation et vous vous connectez. C'est comme ça qu'après tout se lie ensemble. Vous serez là ?
Je serai là, je vais essayer. En tout cas, vous le vendez très bien.
Ouais, donc vous nous inspirez. Hein.
Ouais,
vous nous inspirez de
on voit la liaison entre la méditation, la musique.
On verra les soirées différemment.
Parce que du coup,
c'est exactement ça qu'on voulait vous dire. Parce que dès qu'on parle méditation et musique, quelqu'un va penser que vous êtes dans le zen.
En train de faire...
Mais ça, c'est pas la méditation. Vous pouvez écouter heavy metal et méditer.
Ah bon ?
Oui, bien sûr. Parce que vous êtes, c'est pas le style. Le jugement est pas là, c'est ce que vous touche le cœur. Mais moi, je suis DJ, il y a 35 ans que je joue.
Et vous faites du yoga aussi, du coup ?
Je fais du yoga et je fais la méditation. C'est pour ça que notre but, c'est que les jeunes, comme vous, venez expérimenter. Et peut-être ça va vous servir pour le futur.
C'est vrai.
On l'espère. Merci à vous deux d'être venus dans la matinale de 19h.
La matinale de 19h.
Et on reste avec toi, Hugo, parce que tu vas nous parler de l'UFC. Ouh là 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 là.
Eh oui. Ah, il y a un petit... Jordan, t'es mort. Et oui, c'était le combat de Cédric Doumbé vs Jordan Zebo. 9 secondes et un KO plus tard, c'était la fin de Jordan. Et ce n'était pas une prédiction puisque un autre Jordan vient de gagner les européennes et brigue le poste de Premier ministre aux prochaines législatives. C'est le combat que tout le monde attend. El Rey Manu contre Don Bardella. Non content d'être pris un KO aux européennes, Manu planifie un autre combat. J'aime pas perdre, mais c'est pour nous qu'il le fait. J'ai décidé de vous redonner le choix de votre avenir parlementaire et de remettre mon titre en jeu. En effet, le fight est prévu pour le 30 juin et la fanbase est on ne peut plus excité. Les haters se rassemblent partout et crient « Siamo tutti antifascisti » de l'italien, il paraît. Tout le monde ne parle que de ça en terrasse. Qui va gagner la grosse bagarre ? Qui va gagner la grosse bagarre ? Évidemment, tout le monde veut être Premier ministre, ça a l'air cool. À gauche, on parle de François Ruffin et à droite de Rick Ciotti qui s'est dit que bon, ils sont pas si fascistes que ça le RN. Non, non, t'es exclu Eric, voilà, exclu, dehors. Perso, j'ai voté parti animaliste aux européennes, je trouve les animaux beaucoup moins dangereux que les humains. Ça ressemble quand même beaucoup à un concours de bites cette affaire. Je rappelle que la photographe du président postait il y a quelque temps un cliché de Macron faisant de la boxe avec les muscles contractés. Bonhomme, ouais, bonhomme ! Des hommes qui aiment pas perdre et qui pour ça sont prêts à risquer l'avenir d'un pays. Comme par hasard, 2 jours après la victoire des gros nonneux aux européennes, ma radio préférée, après Rhin de Campus bien sûr, licencie Guillaume Meurice et tous mes humoristes préférés démissionnent par la suite. Ça sent le roussi pour la culture et la liberté d'expression, mais bon, j'ai voté parti animaliste. Liberté pour les chats et les chiens, s'il vous plaît. La lucha es para siempre.
Bon, je me remets de ce petit fou rire et en attendant, je sais toujours pas ce que c'est que l'UFC.
C'est le Jordan, c'est Doumbé, c'est le fight.
D'accord, c'est le fight. Eh ben écoute, merci à toi pour cette chronique. Et la matinale c'est terminé, je reviens rapidement sur Girls and Boys. Les représentations auront lieu les lundis, jeudi et samedi du 29 juin au 20 juillet à Avignon cet été. La matinale, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. Merci à Mathie Garas pour la co-interview, ainsi qu'à Quentin Lelaquet, Sylvie Argibet pour leur chronique respective et pour le Zoom aussi, Hugo Traversier pour ton Zoom, ta chronique. Merci aussi à Joey à la réalisation, Héloïse Robert, Inès Meiris et Lucas Corroy à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure. On verra le sujet de demain. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts. At la matinale de 19h sur X, ex Twitter. La matinale RCP sur Instagram. À 20h, là dans pas longtemps, dans 4 minutes, retrouvez Extérieur Nuit sur Radio Campus Paris. Et de quoi on parle ce soir? Eh ben, on verra ça dans 4 minutes. Passez une très bonne soirée, à demain.
Merci.